jour, autre radio, autre culture, émission également rediffusée sur audiopeople.fr. Alors aujourd'hui, nous recevons Pascal Coulon. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Pascal est un de nos grands, grands harpistes, mais de musique vénézuélienne. Quelle différence y a-t-il entre la harpe vénézuélienne et la harpe française ?
Différence, mais pas tout à fait, puisque en fait, la harpe qu'on appelle vénézuélienne, il faudrait un peu le nuancer parce que c'est simplement que les premiers disques qui sont sortis de ce style de la musique des Llanos, étaient faits au Venezuela. Mais en fait, la région des Llanos est à moitié en Colombie, à moitié au Venezuela. Donc maintenant, il y a autant de production musicale de ce style en Colombie qu'au Venezuela. Donc dire harpe vénézuélienne, c'était au début, parce que les premiers disques étaient des disques vénézuéliens. Non, on peut dire la harpe des Llanera. Hein, c'est l'adjectif des Llanos, la région donc, qui est à cheval entre la Colombie et le Venezuela. Cette harpe, en fait, est restée presque identique à la harpe qui était en Espagne à l'époque baroque. Donc les Espagnols l'ont amenée fin 1500-1600 pour jouer dans les églises. Elle servait à jouer les musiques religieuses. Il y a eu aussi beaucoup de missionnaires qui ont amené ces harpes et qui l'ont même enseignée. Plus largement, dans l'Amérique du Sud, au Paraguay, c'était les jésuites qui ont enseigné ces musiques aux Indiens Guarani. Les Indiens Guarani qui sont connus pour avoir assimilé de manière étonnante à l'époque les musiques européennes. Donc, au Venezuela, Colombie, il y a un style précis de harpe. Alors bon, pour aller rapidement, les harpes qu'on pourrait appeler sud-américaines sont des harpes qui viennent de l'Europe baroque, précisément d'Espagne. Alors, il y a la harpe paraguayenne, qui est de la zone d'influence guarani, principalement Paraguay, mais aussi, ça déborde aussi sur l'Argentine, l'Uruguay. Il y a même au Chili, on utilise dans la cueca la harpe paraguayenne. Après, il y a la harpe des Andes, hein, Pérou, Bolivie, Équateur, la harpe andine. Elles sont assez similaires, hein. C'est la même famille d'instruments, l'harpe sud-américaine, mais suivant les zones, elles ont quand même leurs petites caractéristiques de construction.
Elles ont la même tonalité ?
Pas tout à fait. Donc, je disais donc la harpe qu'on appelle paraguayenne, mais enfin qui est plutôt, on dirait plutôt d'influence guarani, la harpe des Andes, hein, Pérou, Bolivie, Équateur, la harpe llanera, donc celle que je joue, la harpe qui est en Colombie, Venezuela, des plaines colombo-vénézuéliennes, et puis il y a un autre style de harpe au Mexique, la harpe de Veracruz, le célèbre morceau la Bamba, et d'ailleurs le film où jouait Gérard Philippe, il jouait un médecin échoué là-bas qui dansait au son de la musique de Veracruz, où on fait le zapateo, on tape des talons, la musique de Veracruz. Donc il y a toutes ces harpes-là, ce sont des harpes qui viennent de l'Europe baroque. Alors, dans la harpe vénézuélienne, au début, elle était jouée dans les églises, et puis petit à petit, elle est passée dans le domaine. C'est devenu musique populaire, et la caractéristique, c'est qu'on trouve dans les Llanos, les habitants, les Llaneros. Enfin, moi, quand j'y suis allé il y a 35 ans, ou donc, parce qu'il y a beaucoup d'élevage, hein, c'est un peu des cow-boys ou des gardiens, on trouve des gens qui ont des métiers très physiques, fabriquer eux-mêmes leur harpe. Alors, évidemment, si on trouve en Colombie un exemple, il reste un exemple d'une harpe de l'époque, vers fin 1500. Elle est assez en mauvais état. D'ailleurs, il y a un luthier français d'Arcisas, Yves d'Arcisas, qui est allé là-bas et qui, à partir de l'instrument en mauvais état qui est là-bas, a reconstitué une harpe de cette époque, Alors évidemment, elle avait quelques petites, sur la console du haut, elle avait quelques petites sculptures, elle était peinte un peu en doré, enfin c'était des harpes. Et la harpe Janella actuelle, donc elle est de fabrication beaucoup plus simple. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un instrument populaire où les gens le fabriquent et le jouent.
Est-ce qu'il existe en Espagne encore des harpes de ce type-là? Ou elles ont complètement disparu en Europe?
Il y a quelques exemples, parce qu'en Espagne, il y avait deux sortes de... Il y avait la harpe d'une rangée de cordes et la harpe de deux rangées de cordes. On disait de un orden, de dos ordenes. Et celle qui a été emmenée en Amérique du Sud et qui est restée, qu'on retrouve donc dans l'harpe Janella, c'est l'harpe d'une seule rangée de cordes. Et il y avait une harpe plus complexe, où il y avait une deuxième rangée de cordes pour faire des demi-tons. Et alors en Espagne, j'ai vu quelques livres où on voit des photos de harpes. Alors je ne sais pas si elles sont reconstituées, ou je pense qu'elles sont reconstituées par rapport à des gravures. Donc elles avaient des ouïes. La caractéristique c'est pour l'harpe vénézuélienne, c'est que les ouïes sont, par rapport à l'harpe paraguayenne, les ouïes sont sur la table même. C'est-à-dire les trous qui permettent au son de sortir. Sont sur la table même, alors que ça, par exemple sur la harpe paraguayenne, et les trous sont derrière comme sur la harpe celtique ou classique, pour changer les cordes aussi.
D'accord. Et par exemple, par rapport à aux harpes celtiques, quelle différence y a-t-il?
Aux harpes celtiques?
Parce qu'il y en a qui ont tendance à dire, oui, c'est à peu près le même type d'instrument.
Oui, c'est la harpe qu'il y avait en Europe. Il faut dire que l'harpe celtique, elle s'est modifiée aussi plus récemment. Parce que, par exemple, si je prends en Irlande, où il y avait une forte tradition à la harpe irlandaise, hein, donc le plus célèbre, c'était le harpiste aveugle O'Carolan. Alors, cette harpe, au début du siècle, a pratiquement disparu. Et il y a un musicien, j'ai oublié le nom, qui était pianiste de formation, qui a senti que cette musique disparaissait, et qui a parcouru tout le pays pour noter... Il y a un recueil très, très important où il a noté tout le maximum de mélodies qu'il pouvait récupérer. Et alors, ce style de harpe a pratiquement disparu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en France, les harpistes classiques ont un peu annexé cette harpe celtique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils en ont fait des petites harpes pour les enfants au moment où ils débutent. Mais alors, ils leur ont mis une tension de corde identique à celle des harpes classiques. Et donc, elle est devenue un peu une mini-harpe classique. Une harpe classique simplifiée pour les débutants. Mais grâce à Alain Stivell, par exemple, qui lui a appris d'abord avec une professeure classique très, on pourrait dire un peu...
Rigide.
Un peu rigide. Ouais. sur ce style de harpe qui sont un petit peu des mini-harpes classiques. Et lui a, sous l'impulsion, je crois, de son père, qui a essayé de refabriquer une harpe celtique, bardique notamment, enfin des harpes qui sont beaucoup moins tendues, et donc a essayé de retrouver le jeu et les tensions de cordes de la musique celtique plus ancienne, où on jouait avec les ongles.
D'accord. Oui.
Parce que l'harpe bardique, ça joue plutôt avec les ongles, elle est beaucoup moins tendue. Donc là, on retrouve les jeux des harpes, ce qu'on appelle vénézuéliennes. Enfin, on se rapproche beaucoup. C'est simplement qu'il y a eu une époque où l'harpe celtique, en fait, c'était devenu une mini-harpe classique. Mais oui. C'était un peu un moment dans l'histoire de l'instrument qui n'est pas valable, qui n'a pas toujours été
D'accord.
comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça.
Est-ce que les jeux de cordes sont les mêmes par rapport à la harpe vénézuélienne?
Je peux utiliser des cordes. Je peux acheter, par exemple, au magasin de harpe à Paris, des cordes en nylon qui sont utilisées pour les harpes celtiques. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de luthiers et de musiciens dans le monde celtique qui ont fait des recherches et qui ont plus récemment refait des harpes en diminuant la tension des cordes et en faisant des recherches avec des jeux qui rejoignent un peu quand je parle de l'harpe vénézuélienne,
oui,
notre manière de jouer. Et puis, il y a eu aussi maintenant, dans les festivals celtiques, des invités des harpistes sud-américains invités. Alors petit à petit, les échanges se font, les comparaisons. Par exemple, j'étais invité une fois à Dinan. C'est un stage de Mirzin, une harpe celtique. Donc, j'animais un stage le temps de... Et mes élèves donc, avaient des harpes celtiques. Et donc, petit à petit, on s'aperçoit qu'on peut jouer des morceaux vénézuéliens sur une harpe celtique. Bon, c'est un petit peu plus tendu. Mais maintenant, il y a des harpes celtiques moins tendues. Donc, ça se rapproche, la différence est pas si grande que ça, c'est la même famille d'instruments.
Alors on va revenir à toi, là, après la harpe vénézuélienne, on va revenir à toi. Je sais que tu as commencé dans la musique avec la guitare. T'es un jeune guitariste qui jouait des chansons françaises.
Oui, alors, l'époque où je jouais de la guitare au lycée.
Oui, parce que
vu
les photos du disque, là, tu étais vraiment tout jeune. Là.
Oui, alors, c'était l'époque la chanteur-guitariste. Je me souviens, on chantait, alors, je sais pas, Brassens, Guy Béard, Qui suis-je, qui puis-je, etc. Et puis, on composait nos chansons. Enfin, c'était à l'époque le chanteur-guitariste qui chante ses chansons, c'était vraiment...
Autodidacte.
Oui, autodidacte. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de musique vers les 16 ans. Et puis, je suis monté à Paris, j'avais 18-19 ans. Et là, j'ai entendu dans un cabaret, d'ailleurs, des gens que vous connaissez, puisque c'est juste à côté...
À l'Escale.
Parce qu'à l'époque, l'Escale, c'était un endroit qui était plein tous les soirs.
C'est amusant parce qu'en fait, on a reçu ici Angèle Parra, Romano et autres. Et tous nous parlent de l'Escale en disant on est passé à l'Escale.
C'est-à-dire à cette époque, d'abord le quartier
Parra
latin.
Est passé à l'Escale.
Si on prend cette rue Monsieur le Prince, je me souviens, le soir, c'était plein de monde. Les gens sortaient beaucoup le soir et dans ce quartier. Et par exemple, à l'Escale, il n'y avait pas un groupe qui jouait. Non, il y avait tous les 30 minutes, 40 minutes. Enfin, il y avait des passages et il y avait un groupe d'Argentins, un groupe de Paraguayens, un groupe de Mexicains. Et alors, donc, dans une même soirée, on avait une palette de la musique, des musiques des Andes aussi, des flûtes. Donc, on avait, en allant passer une soirée là-bas, on ressortait avec une palette de la musique sud-américaine. Une vue bien... Et donc, moi, j'ai entendu cette harpe vénézuélienne. Et puis, ça m'a tout de suite plu. Ça m'a paru accessible parce que c'était joué dans un contexte, disons, festif. Et ça me paraissait accessible. Ça m'a plu d'emblée.
C'est le coup de foudre.
Voilà. Et donc, je suis parti au Venezuela. Un peu plus tard, je suis parti au Venezuela. Et je suis allé directement pour rencontrer un personnage qui était le père spirituel de cette musique. Voilà, l'Indio Figueredo. Alors, je parlais à peine espagnol. J'ai pris des bus dans la nuit, traversé Llanos. Et je suis arrivé un matin et je suis allé directement chez l'Indio Figueredo. Et voilà, et là, ça a été le début de mes voyages.
Oui, alors, ce qui est amusant, et là, j'ai du mal à saisir, comment tu as quitté la harpe vénézuélienne dont tu étais tombé complètement amoureux pour aller... apprendre à jouer du koto.
Il faudrait que, je vais pas faire de la psychanalyse ni de la psychologie, je sais pas, enfin je vais essayer de dire, voilà, parce qu'à l'origine c'est vrai qu'en ce moment les gens on sait que les gens se passionnent pour, on voit partout que les gens se passionnent pour la généalogie,
oui,
la recherche de ses origines. Et alors, en parlant de recherche de ses origines, bon, c'est vrai que pour mon cas personnel, malheureusement, du côté de mon père, j'ai pas arrivé à savoir qui c'était. Donc, j'ai un petit vide. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens maintenant qui expliquent qu'il y a certaines personnes à qui c'est difficile de dire « Ah bon, moi, je ne sais pas d'où je viens. » Mais c'est pas toujours... tous les gens ne le vivent pas facilement. Et c'est vrai que j'ai toujours eu... c'est un petit problème d'identité, de recherche d'une filiation en quelque sorte, qui pourrait m'apporter un certain équilibre et des recettes pour la vie. Et c'est vrai que, comme dit l'expression en espagnol, est muy inquieto, inquiet, en français on pourrait dire inquiet, quelqu'un qui, vous voyez, qui cherche toujours une solution qu'il ne trouve pas. Hein, qui est un peu agité. D'autre part, j'ai toujours eu donc ce caractère un petit peu inquiet et un peu agité, avec du mal à intégrer des groupes. Donc, j'ai arrivé à canaliser cette énergie mal contrôlée par ces voyages lointains, le dépaysement et en quelque sorte une recherche d'un parcours initiatique qui comblerait le vide de mes origines et me donnerait des recettes de vie. Alors, vous voyez, c'était un petit peu pour donner le point de départ. Voilà, c'est tout. J'ai appliqué la méthode, puisque je suis allé à l'est et à l'ouest. Mm-hmm. Et donc, loin à l'est, puisque c'est au Japon, et puis là-bas, à l'ouest. Alors, pour ce qui concerne le Venezuela, le personnage de l'Indio Figuerello, pour moi, j'y suis allé là-bas un peu comme on irait voir une sorte de chaman,
oui.
Un musicien autodidacte, bien sûr, qui intuitivement décode les lois de la nature qui l'entoure et où je peux trouver dans son jeu des secrets de vie. Mais c'est-à-dire, c'est quelque chose d'intuitif. Et alors, c'est vrai qu'en allant dans les Llanos, c'est une région immense. C'est assez magique. Donc, cette démarche, elle m'a paru un peu comme nécessaire, comme une petite mission salvatrice que j'avais. Alors, c'est pour ça que je suis parti voir l'Indio Figuerello. Donc je suis arrivé là-bas et j'ai bien été reçu. Et alors j'ai découvert ce personnage qui ne savait pas écrire en fait. Et c'est sa fille qui était institutrice qui qui notait. Parce que alors ce qui est intéressant dans le personnage de l'Indio Figuerello, c'est que donc il composait plein de morceaux pour la faune et la flore des Llanos. Alors, la chanson qui est connue en France, c'est celle que Hugo Frey avait traduit « L'épervier ». L'épervier, il faut le dire, à l'époque, c'était vraiment une chanson très connue. Donc, il avait traduit une de ses chansons, qui est parmi des dizaines, des centaines. Alors, c'était le Gavilan. Mais alors, dans son cahier, qui était écrit comme un cahier d'écolier, etc., parfaitement tenu par sa fille, il y avait Los Cajuaritos, El Gavilán, il y avait chaque chanson pour les oiseaux, pour la nature. Et donc, ça m'a beaucoup le personnage de l'Indio Figuerello, il m'a beaucoup fasciné. Et je ne suis pas resté longtemps, je suis retourné plus tard, à peu près un peu plus de 10 ans plus tard, je l'ai revu. Et je l'ai encore revu 10 ans plus tard. Bon, et là, après, maintenant, il est décédé depuis un certain temps. Mais chaque fois, je suis allé le revoir avec beaucoup de plaisir.
Est-ce qu'il t'a apporté une autre manière de penser ?
Non, je dirais plutôt que je suis allé chercher... j'avais l'impression de manquer de... Comme je disais par rapport à mes origines, par exemple, c'est comme quand je joue de la harpe. Quand je joue en public sur la voie publique, par exemple, comme je le fais souvent, des gens me disent mais vous êtes breton ? Non, en fait, je suis pas breton. Non, je joue la harpe. je peux pas dire comme... Je peux pas dire, ah oui, je suis breton, je fais de la harpe parce que je suis breton ou celtique. Ou... Non,
oui, en fait... les bretons n'ont pas l'apanage de la harpe.
Oui, mais certaines personnes le voient un peu comme ça.
Oui.
Hein? Non, moi, j'ai trouvé dans cet instrument une manière d'aller chercher des clés en allant voir le...
Pardon ? Des clés de vie.
Voilà.
Et donc, tu n'as pas hésité à aller au Japon.
Et alors, au Japon, c'est un petit peu différent, parce que autant le personnage d'Indio Figueiredo, c'était comme quelqu'un qui avait un savoir un peu intuitif, qui était au milieu de la nature, et puis qui arrivait à capter les choses de la nature et qui, dans sa musique, le transmettait intuitivement. Par contre, au Japon, c'est autre chose. C'est une culture traditionnelle où tout se transmet au détail près, où il faut respecter chaque détail et mettre toute son énergie dans le respect du rite. Parce que quand je suis arrivé au Japon, bon, je ne vais pas raconter les détails, mais je me suis retrouvé au Japon. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un instrument qui soit un peu similaire à la harpe, le pendant de la harpe en Asie. Donc je me suis demandé un peu autour de moi, et on m'a dit, ah ben, il y a le koto, qui est en fait classé dans les sitars, hein, mais, bon, mais on peut trouver aussi en anglais « Japanese harp ».
Oui.
Hein, c'est quand même, ça s'apparente. J'ai cherché un professeur, très difficile à trouver, parce que ce qu'on appelle le gaijin, l'étranger, qui ne parlait pas japonais, comment lui enseigner un art traditionnel. Mais j'ai quand même trouvé, j'ai persévéré, j'ai vu au moins 10 ou 15 écoles, et à la fin j'ai trouvé une professeure, une dame assez âgée, qui a accepté d'essayer, en m'enseignant l'instrument d'oreille, une communication d'oreille, puisque je ne parlais pas la langue. Alors j'ai commencé.
Mais ils ont des tables d'écriture, comment ça se passe pour enseigner le koto?
En fait, le koto avait des tablatures. Les tablatures, c'est-à-dire, ce ne sont pas des notes de musique, des notations où il y a les notes de musique, ce sont des emplacements sur l'instrument.
D'accord. Mm-hmm.
D'accord, corps de 3, tel endroit, ou des tablatures. Mais en fait, c'est une musique de transmission vraiment orale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la professeure, on vient, on est face au professeur et on joue en même temps qu'elle. Elle vous fait jouer et chaque fois, elle essaie de vous faire aller un peu plus loin.
Est-ce que c'est le même système, par exemple, qu'en Inde, où on apprend, par exemple, 3 mesures jusqu'à ce qu'on les sache parfaitement et on passe à la 4e,
Mais alors,
à la 5e?
Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'enseignement de la musique japonaise, moi je vois les professeurs, c'était j'y suis allé il y a 35 ans environ, c'était des personnes qui étaient de la génération d'avant la guerre.
Oui.
Donc, Japon, quand même assez traditionnel. Et elle ne m'aurait jamais enseigné, par exemple, le koto, j'ai étudié shamisen aussi, les simples notes en posant le koto sur la table pour que ce soit plus pratique. Non, il fallait s'asseoir à la position seiza, c'est-à-dire les genoux repliés, et ça fait très mal.
Oui.
Mais alors, cette douleur, elle est pour les professeurs, qui enseignaient, elle était nécessaire. C'est-à-dire que d'enseigner simplement la note, comme ça, oui, c'est...
Ça n'a aucun intérêt.
Ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est que l'élève, elle le voit. Alors on arrive, on se met à genoux, et puis cette position, elle est très vite, elle devient très vite, très vite difficile à tenir. Enfin, ça devient de plus en plus difficile à rester concentré sur la musique, parce qu'on a de plus en plus mal aux jambes. Et alors, la professeure, à chaque fois, elle fait aller l'élève un peu plus loin. Et petit à petit, donc, on progresse. Mais il y a cette douleur physique, elle est un petit peu nécessaire et pour que le vécu, il soit là. Je ne sais pas si vous voyez
ce que je veux dire. Non,
c'est dans leur... moi, c'est ce que j'ai... mon impression de ce que j'ai vécu.
Oui, non, j'avais vu des photos que tu m'avais passées justement dans des concerts de koto où vous étiez tous à genoux. Je me disais, mais comment ils peuvent rester aussi longtemps à genoux?
Je suis revenu, j'avais les jambes en très mauvais état. Là, j'étais mal. Et parce que moi, je suis arrivé, j'avais 20 ans, donc j'ai fait ça tout d'un coup, tous les jours pendant des heures. Et donc, non, mais bon, c'était, donc, c'était un tout, c'est un rite à suivre, et puis un rite où il faut être patient, il faut supporter pour arriver. Parce que le problème des musiques, des arts traditionnels comme ça, c'est que ça prend des années, et même une vie, on pourrait dire, pour avoir le résultat vraiment.
Et qu'ont ils pensé de toi, à vouloir apprendre?
C'est-à-dire, le respect, il est venu du fait que j'ai tenu, les cours, j'en ai fait pendant 8 ans. J'ai tenu 8 ans. Alors, il y avait dans l'école le professeur donc, qui m'avait accepté de m'enseigner, et puis il y avait ses élèves juste en dessous. Mais pendant 2-3 ans, ils ne m'ont pas dit bonjour.
Ouais.
Et au bout de plusieurs années, donc, ils ont vu que je continuais. Donc là-bas, en fait, c'est le fait de persévérer dans quelque chose, c'est ça qui donne la reconnaissance.
D'accord, oui.
Il faut montrer des signes de patience totale et pour qu'on vous reconnaisse.
Oui, il y en a qui sont comme ça en France aussi.
Oui, c'est vrai que...
Où on persévère dans quelque chose.
Bien sûr, c'est sûr.
D'un seul coup, ils vous voient, après ils vous voient.
Voilà, donc il faut passer ce...
Ce cap.
Ce cap. Donc au Japon, c'était plutôt donc un monde où qui se transmet d'une manière très rigoureuse, tandis qu'au Venezuela, Lindo Figueroa, c'est un personnage un peu qui intuitivement, c'est ma vue.
Je fais ça de manière un peu empirique aussi.
Ressent la nature, il est en communication, c'est quelque chose de, c'est de chemin là.
Ce sont des enseignements complètement contraires. C'est amusant à te voir comment tu arrives à supporter l'un et l'autre suite. Et à les intégrer dans toi. Parce que quand on te voit, on n'a pas du tout l'impression de cette démarche.
Ce qui se passe, c'est que maintenant, je fais autre chose. Parce que pour aller, pour devenir un joueur de koto total, il aurait fallu que je continue encore pendant 30 ans.
Oui.
Parce qu'en fait, je voyais mes professeurs, c'est toute leur vie à faire du koto pour arriver à devenir... Et là-bas, par exemple... Dans la musique traditionnelle, quand un musicien a vraiment passé toute sa vie, on le déclare comme trésor culturel national.
Trésor culturel.
Il y a certains professeurs, par exemple, il y avait un joueur de shakuhachi qui était ami de ma professeure et qui venait pour les concerts, qui s'appelait Aoki Laibo, qui faisait du honkyoku, c'est-à-dire du shakuhachi, la flûte. Lui, il est devenu trésor national, culturel. Alors bon, bien sûr, je ne vais pas aller jusque-là, surtout que j'ai commencé la musique tard. Mais j'ai quand même mis une dizaine d'années au Japon, sur le tatami,
oui,
les genoux pliés.
T'as toujours quand même un petit complexe d'infériorité, parce que tu as quand même... obtenu le diplôme d'enseignant de koto, le menkyo.
Le menkyo, oui.
C'est pas n'importe qui obtient ce diplôme.
Oui, mais alors, une fois revenu, j'hésite. J'aurais peut-être pu continuer le koto en le posant sur une table, par exemple. Mais j'ai pas pu parce que, les professeurs que j'avais, qui étaient de la génération d'avant la guerre, pour eux, c'était inconcevable. Non, il fallait être sur le tatami, se mettre en seiza et c'est un tout. Et bon, une fois revenu, donc...
Avant, tu vas quand même à Taïwan. Tu continues
dans la... Oui, je suis allé à Taïwan parce que...
Tu continues quand même dans la lignée et t'apprends le kuchin,
Le kuchin.
Le kuchin,
oui. Alors là, c'est un instrument, c'est considéré comme... Parce qu'il y a kutsun aussi, mais qui a des cordes en métal, mais non, là, le kuchin, c'est considéré comme l'instrument de ce type, koto. Il y a aussi en Corée le kayagum, et il y a aussi le chino en Vietnam, enfin, tous ces types d'instruments. Le kuchin, c'est considéré, on a trouvé ça dans des tombes très anciennes, chinoises. Il y avait à côté dans des tombes, cet instrument, le kuchin. Alors, c'est un instrument qui est laqué tout noir, et qui a des cordes en soie.
En soie.
Et qui n'a pas de fret. Ce sont des frottements. Hein. Alors, c'est un son très doux. Et alors, quand j'étais à Taïwan, j'étais logé dans la maison de la veuve d'un professeur, enfin, qui était venu de Chine continentale avec, quand Chiang Kai-shek s'est replié sur l'île de Formose, enfin, qui est devenue Taïwan. Et là donc, ils ont créé l'académie de Penchao. Donc, j'étais invité là-bas et je logeais chez cette veuve. Et sa fille jouait du kuching. Et alors, elle ne le pratiquait qu'à la nuit tombée. Et si je lui demandais, je peux venir écouter. Ah non, ça lui plaisait pas trop, parce que c'est un instrument, dans la Chine ancienne, le kuching, les poètes, on voit des dessins où le poète porte son kuching un peu comme on porte sur le dos, quelqu'un il porte sa guitare. Et alors, les poètes emmenaient cet instrument dans la nature et composaient des poèmes en jouant leur chine. Alors c'est un instrument très, très mystérieux, mais qui a un son très pur, le son de la soie. Et donc là, ça a été intéressant. Malheureusement, je suis tombé malade. Au bout d'un an, j'ai dû revenir. Enfin bref, j'ai pas pu vraiment rester plus longtemps non, pour étudier cet instrument. Et une fois revenu, donc, j'ai retrouvé le quartier latin, etc. Et puis je suis reparti à fond dans la harpe. Alors c'est là où vraiment je me suis mis plus sérieusement. Donc j'ai commencé très tard. Et alors après, j'ai essayé donc j'ai refait des séjours au Venezuela, et j'ai essayé de jouer la musique llanera, en essayant d'être vraiment à l'identique de ce style. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, je peux dire que depuis plusieurs années, je me tourne un petit peu vers moi-même. Et j'utilise tous ces éléments que j'ai vus si loin. Je fais je fais des compositions avec l'harpe vénézuélienne. Donc, modestement, je pourrais dire un petit peu que j'ai créé un style dans un sens. Ou peut-être rythmiquement, je suis ce rythme vénézuélien qui est en 3-4, le joropo ou le pasaje. Vraiment, je l'ai intégré, quoi. Donc, quand je fais des compositions, des fois, mes mélodies, on pourrait dire qu'elles sont peut-être plus françaises, mais la rythmique, elle est là, c'est le support que j'ai adopté dans ma musique. Et puis, c'est vrai que ces années de koto, dans mes compositions, ça sort peut-être pas d'une manière flagrante, mais c'est là quand même. Quand je compose, cette influence, les expériences que j'ai faites, elles sont là, c'est mêlé.
C'est-à-dire que c'est intégré à toi maintenant. C'est...
Voilà, donc maintenant je cherche pas trop quoi et quoi, je fais ma musique comme elle vient.
Alors, je t'ai découvert, moi, en tant qu'artiste, au moment où tu enregistrais ton disque qui s'appelait Harpe Vagabonde. Et là, j'ai découvert un artiste fabuleux. Moi, j'ai adoré les morceaux. Et tu avais comme violoniste à ce moment-là Alexis Cárdenas.
Oui, Alexis Cárdenas. Oui, c'est un Vénézuélien qui joue aussi bien la musique traditionnelle que la musique classique, puisqu'il a eu des prix...
il a eu des grands prix internationaux, oui.
Fameux, et il joue aussi avec un accordéoniste de jazz, je crois...
C'est Richard Galliano, non?
Oui,
voilà, c'est ça.
Galliano.
Oui.
Et j'ai eu la chance qu'il accepte de participer à mes disques. Il a participé dans 3 disques différents. Et là, maintenant, bon, il a une carrière internationale et il vit plus spécialement en France. Donc, il reste tous ces morceaux où il a aimablement participé.
Oui. Alors, c'est amusant parce que pour ceux qui ne connaissent pas Pascal Coulon a une particularité, c'est qu'il fait énormément de jeux de mots. Donc, c'est continuel, même quand il enregistre ici, il y en a bien, c'est pas une dizaine, mais une centaine qui sortent par enregistrement. Et c'est amusant parce que c'est une particularité que l'on revoit dans les titres. Et là, on le remarque. Alors, on l'a pas tellement remarqué au niveau de Harpe Vagabonde, mais je trouve que ces jeux de mots, on les voit particulièrement dans les 2 derniers CD que tu as sortis.
Ouais, c'est des petits clins d'œil, des petites choses. Il y avait un morceau, par exemple, que j'ai... Bon, parce qu'on n'en a pas parlé. Bon, je joue, faute d'une carrière internationale concrète, en fait, je joue très souvent au plus profond, au plus bas, pour ne pas dire, dans les couloirs du métro. C'est là où je compose beaucoup de morceaux, matin très tôt. Moi,
je te coupe quelque chose, parce que tu as écrit une très jolie phrase dans Nation d'étoiles, qui est ton avant-dernier disque. Tu as écrit une très jolie phrase. Nation d'étoiles, mon sixième CD, est l'aboutissement d'une nouvelle année d'immersion matinale dans les couloirs du métro parisien. Et je voudrais dédier Chanson pour l'essentiel à tous les anonymes qui patientent dans cet étrange purgatoire. Mi-refuge, mi-prison, un lieu propice à laisser courir l'imagination pour dessiner des nations d'étoiles aux confins d'un ciel que l'on ne peut apercevoir.
Oui, ben, cet univers du métro, c'est très spécial. C'est un endroit, comme dans tout endroit, disons, public, de passage. Il y a le pire et le meilleur. Mais il y a des choses, par exemple, c'est vrai que ce morceau-là, pour l'essentiel, c'est vrai qu'on voit un certain nombre de gens qui sont là et qui attendent quelque chose. Et ils sont un peu comme en stand-by. Ce morceau-là, j'avais fait pour eux, et puis... pour moi-même aussi, parce que des fois, c'est un peu ce que je ressentais.
Alors, moi, j'aime bien les titres de Nation d'étoiles, parce qu'on a Harpo Métro, Noël.
Bah, Harpo Métro, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le harpiste des Marx Brothers, qu'on appelait Harpo. Donc en mettant Harpo Métro, bon, effectivement, j'ai composé mon morceau dans le métro, donc j'appelle mon morceau Harpo Métro, et puis c'est un petit salut à Harpo.
Dans Nation d'étoiles, après on parlera de ton dernier disque, mais dans Nation d'étoiles, il y a une très 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 jolie chanson qui s'appelle Caroncellito.
Oui.
Et il y a une question que je me pose, moi, comment ça se fait que cette chanson n'a jamais pu, logiquement, c'est une chanson qu'on aurait dû retrouver dans toutes les radios?
Oui, bah, c'est-à-dire j'ai un peu renoncé à proposer mes morceaux aux radios parce que je compose ce qui vient et j'ai l'impression que après si je vais dans une radio on va il y a les morceaux qu'on attend. Alors peut-être c'est pas ce que je fais c'est pas ce qu'on attend. Je sais pas
parce que c'est amusant il y a quelqu'un que je rapproche mais bon. Dans ceux qui existent actuellement, des jeunes qui percent dans la chanson, qui a sorti un album dont une chanson marche beaucoup très fort, qui s'appelle Manège, et qui est une composition très classique, et qui est très très jolie comme ça. Il y a des instants de grâce, et j'ai trouvé que dans Caroncellito, on a ce même instant de grâce.
Ah ben non, mais c'est-à-dire, j'ai appelé ce morceau Caroncellito. Ce qu'il y a dans mes disques, au départ, sont des instrumentaux, puisque c'est ce que j'ai... Enfin, surtout ces 3-4 derniers disques, c'est ce que je compose quand je vais très tôt m'installer dans le métro. Il n'y a personne. Deux premières heures. C'est à ce moment-là que j'ai composé pas mal de choses, suivant l'inspiration du moment. Et ce morceau-là, il avait un mouvement comme celui d'un manège. Donc j'avais appelé ça Caroncellito. Et
après, c'est amusant parce que lui, il avait une chanson qui s'appelait Manège. J'ai pas fait attention que Caroncellito, c'était Carousel.
Je l'ai confié donc à mon ami César Andrade. Et c'est lui qui, dans mes CD, a mis les paroles sur les mélodies. Et après, qu'on a confié à différentes chanteuses. Donc, ce morceau, les paroles donc, ont été composées par César.
Et qui chante?
Alors, c'est Elvita Delgado, parce que de temps en temps, on demande de la musique vénézuélienne. De temps en temps, pas souvent. Donc, de temps en temps, le groupe se reforme et on joue au répertoire vénézuélien. Et cet ami César Andrade, qui chante aussi, qui joue des maracas. Et puis, mais il est aussi poète. Il a écrit des livres de poèmes. Donc, je lui confie des mélodies et s'il a... L'inspiration vient et il me l'apporte et puis donc j'intègre ça dans mes différents enregistrements. Et là, on l'a confié à Elvita, qui je trouve l'a magnifiquement interprété. Et ce morceau-là, c'est vrai qu'il est un petit peu magique.
Oui.
Le résultat global,
Ah, je trouve ça très beau, oui.
Enfin, j'ai le plaisir, le plaisir d'avoir mené le projet. Bon, après, le succès à la postérité, bon, de toute façon, c'est pas moi qui en décide. Donc, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire.
Sale a la plaza, siempre vestida, con su faldita blanco y marrón.
Il y a aussi une chose qui m'a surprise dans Nation d'étoiles, c'est que tu as donné un petit peu plus dans du contemporain, de la musique contemporaine, et il y a eu un apport avec les cordes éoliennes.
Ah oui, cordes éoliennes, c'est-à-dire que, je veux dire, je ne ramène pas tout au métro, hein, parce que le métro, il y a des fois où je l'oublierai bien, j'en sortirai bien. Mais bon, faute de vrai plan B, j'y retourne. Mais et surtout à des époques où, comme récemment, un moment, j'ai presque arrêté parce qu'il y avait des annonces qui commençaient, j'arrivais à 6h30, 7h, qui commençaient avec le volume à fond toutes les minutes, ce qui faisait que là ça devenait. Par contre, là en ce moment j'y retourne. Bon, il y a eu une accalmie à propos de ça. À ce moment-là, je peux arriver à trouver des moments magiques, des moments où dans le son, dans le couloir, etc. Ça existe, mais c'est pas systématique. Ça peut être le pire, l'enfer. Oui, alors cordes éoliennes. Pourquoi cordes éoliennes ? Parce que quand je joue, par exemple, il y a un endroit où il y a beaucoup de vent, c'est à D'Enfer, là, quand je joue à D'Enfer, parce qu'il y a le métro aérien qui arrive, donc le métro s'engouffre et il amène le vent, des rafales de vent, et en hiver, c'est terrible, hein, c'est glacé. Et alors, le vent s'engouffre dans le début de couloir et passe dans la harpe. Et alors là, il y a un effet très spécial, c'est l'effet éolien. C'est pour ça que j'ai appelé corde éolienne. La harpe se met à sonner. D'ailleurs, dans la Grèce antique, il y avait les harpes éoliennes qui étaient. Alors, il y avait des temples pour le dieu Éole, le dieu du vent. Et donc, autour du temple, il y avait des harpes, pas destinées à être jouées, mais à être jouées par le vent.
Par le vent, oui, d'accord.
Et alors, donc, il y a cet effet harpe éolienne. Quand je prends le vent arrive, hein, et alors l'harpe se fait des sons très. Ça fait un peu contemporain aussi,
oui,
hein,
oui,
on dirait musique contemporaine. Et donc, j'ai composé ce morceau, et puis pendant l'été, je suis allé près du Vercors, et là, j'ai un ami qui a enregistré le son du vent. On a monté sur une colline, on a mis la harpe, et là on a enregistré le son du vent dans la harpe. Et donc après que j'ai intégré dans le morceau corde éolienne.
Et tu as sorti ton dernier disque qui s'appelle Danza Harpe.
Oui.
Alors, l'intérêt de ce disque, c'est que toute la famille y a participé.
Oui, au niveau du livret, j'ai tous mes enfants, j'ai illustré le livret avec des dessins de mes enfants. Il y en a un qui a 5 ans, il y en a un qui a 10 ans, il y en a un qui a 11 ans. Et alors, j'ai appelé le disque Danza Harpe parce que Danza avec un Z, c'est un style de musique qu'on trouve au Venezuela. J'ai trouvé qu'en mettant « dans sa harpe », il y a un Français va lire « il est dans sa harpe ». Et en même temps, j'aime beaucoup le style, ce style de morceau « dans sa ». Et j'ai composé dans d'autres CD des morceaux sur la rythmique « dans sa ». Donc c'est une composition dans le style « dans sa ». Et puis je l'ai pris comme titre « dans sa harpe ». Voilà.
Alors dans tes morceaux de musique, tu as des musiciens effectivement qui viennent jouer. Nous reconnaissons parce qu'ils sont venus en interview ici Ken Biswell, Alfredo Cutufla. Ouais. On a également Cucci Almeida, Julio Font, Bernard Vistret.
Oui, mais alors l'histoire de mes disques, il faut tout de suite mentionner Philippe Labrou. Parce que sans lui, c'est ce chemin-là, Bon, c'est vrai, il y a mes immersions dans le métro qui ont fait qu'en allant tout seul très tôt, je me suis mis à... c'est là où j'ai dit, tiens, c'est original, je vais essayer de transformer ce moment où je vais là pour essayer de composer des choses avant que les gens arrivent. Alors, j'ai cherché les morceaux. Et puis après, les enregistrer, c'est ce partenariat, on pourrait dire, que je fais avec Philippe depuis maintenant longtemps, qui est bien rodé, qui permet de mener ce projet de CD à son terme. Donc, je remercie Philippe. C'est grâce à lui que mes CD sont là.
Mais tu prends quand même des musiciens qui ne sont pas des moindres.
Oui, alors c'est aussi, je disais ça, c'est aussi grâce à lui que j'ai fait des rencontres, parce que Philippe m'a fait des suggestions, me dit, tiens, j'ai vu passer dans mes enregistrements un tel. On en discute et il me donne des pistes. Il m'a permis de rencontrer des musiciens que je n'aurais pas connus s'il n'y avait pas eu le biais du studio Philippe. Alors, moi, j'apporte mes mélodies, après on en discute, on cherche des pistes pour les participants.
Qu'est-ce que tu cherches dans chaque disque que tu sors, dans chaque album que tu sors? Est-ce que tu cherches à lui donner une couleur différente?
Oui et non. C'est-à-dire que les morceaux, je les compose petit à petit. À peu près, je mets à peu près 2 ans. Moi, je parle des 4 derniers disques, les 10 d'avant, c'était plutôt concrétisation de ma technique de harpe vénézuélienne. Donc, j'en ai un qui est chez, d'ailleurs, Buda Records, Pascal Gouron, Venezuela, tradition de la harpe. Donc là, c'était le style vénézuélien que j'adore. Parce que dans mes compositions, il y a des compositions qui sont complètement dans le style.
Oui.
Alors, exactement. C'est pour ça que... une ligne directrice, c'est difficile parce que, dans un sens, sur deux ans, bon, vers la fin, il y a l'époque des participants, mais au départ, en gros, jusqu'ici, ça m'est venu à peu près chaque mois, j'ai à peu près un nouveau morceau. Alors, je le fais tourner. Puis, donc, il s'étoffe, et puis après, je contacte Philippe et je viens l'enregistrer. Et alors, étalé sur un an et demi, avec à peu près peut-être un morceau par mois, globalement. Alors des fois, il y a des morceaux qui me viennent complètement dans le style vénézuélien, et puis d'autres qui... Alors peut-être que, je ne sais pas, on dira que c'est pas... Qu'un professionnel, il va dire, tiens, je vais faire un morceau dans tel style, et celui-là... Non, moi c'est plutôt, j'y vais, je sors ma harpe, et puis il y a un morceau qui arrive... Alors, des fois, il est dans le style vénézuélien total. Puis, des fois, je cherche une ouverture sur un peu, soit le classique, soit légèrement jazz.
Même le baroque, parce qu'il y a un morceau avec Bernard Vistret qui met à la flûte, qui est magnifique.
Mais je n'ai pas au départ dit, tiens, je vais faire dans tel style, comme une feuille de route. Ça, je ne sais pas si je saurais le faire. Les choses qui me viennent, je sens que... Ah, je dis, tiens, là, je sens une piste dans telle direction, mais totalement me dire, je vais faire des morceaux dans tel style, est-ce que, en me donnant un ordre, je ne sais pas si je saurais l'exécuter. Donc, c'est un petit peu, j'attends un petit peu ce qui me vient. Voilà. Donc, alors, dans mes disques, c'est vrai qu'il y a certains morceaux qui, par exemple, là, dans les morceaux chantés, que j'ai confié donc à César Andrade, qui a mis les paroles. Là, on l'a confié cette fois-ci à Elie Soto. Là, ce sont 2 morceaux dans le style passard et vénézuélien, totalement.
Exactement.
Parce que j'adore ça. Mais il y a d'autres morceaux. Par exemple, le morceau en 4-4 avec les percussions de Alfredo Cutufla et la basse Sébastien Jiménez. Bon, là, c'est pas du tout, c'est un autre style. Après, j'ai fait avec le violoncelle, avec Bernard Vistret aussi, Cœur Allègre, etc. Bon, je vais prendre des directions suivant mon inspiration.
L'inspiration du moment.
Oui, l'inspiration du moment.
Alors, en faisant un petit peu de recherche sur toi, je suis tombée sur des sites internet et nous avons par exemple Gilles Beille, accompagné de Perrine Perrault, professeur de harpe, qui ont fait des émissions sur la musique du Venezuela et qui ont fait des émissions sur le meilleur de Pascal Coulon et sa harpe.
Oui.
Et sa harpe vénézuélienne.
Oui.
Quel effet cela te fait?
Ah,
de...
bah, ça m'a fait plaisir.
Bon, de parce te que... voir repris justement dans des émissions de radio.
Bah oui, parce que c'est vrai que tout artiste aspire à la reconnaissance. Mais bon, il faut dire que. Donc ça m'a fait plaisir quand. Je me suis aperçu que Gilles Bec faisait une émission sur mes compositions. Je lui ai envoyé le dernier disque. Bon, il n'a pas encore écouté, mais il revenait du Venezuela et il a emmené l'enregistrement des émissions. Il avait fait des enregistrements en espagnol. Et donc, il l'a confié à des radios et il m'a dit que quelques jours plus tard, il était dans un taxi à Barquisimeto et il a entendu l'émission, donc avec mes morceaux, et lui qui, il a entendu ça dans la radio de son taxi, donc il m'a raconté ça, j'étais tout content. Hein.
Mais il y avait une anecdote que j'avais déjà racontée lors d'une précédente interview, où on raconte que la radio vénézuélienne dit que si vous voulez écouter de l'excellente musique vénézuélienne, n'hésitez pas à aller à la station de métro d'Enfer Rochereau.
Ah bon ?
Tu savais pas ?
Non, non, non. Non, bon, je sais que certains des Vénézuéliens m'ont dit avoir entendu des morceaux, bon, je sais pas, au Venezuela. Bon, il y a quelques disques qui se baladent, mais enfin, je peux, c'est pas, je veux dire, je peux pas dire que c'est de l'écoute massive. Mais bon, ça me fait plaisir.
Oui, mais quand même, tu es quand même très reconnu, puisque tu as été invité dans plusieurs festivals internationaux de harpe, dont celui de Marielle Norman, qui n'est pas rien quand même.
Oui, bon, j'étais invité. C'est vrai, c'était par rapport. Je ne me souviens plus lequel des CD, mais c'était par rapport à un CD. Donc, je sais que le festival a voulu m'inviter. C'était, si vous voulez, une retombée d'un des CD précédents. Je ne saurais
ça
plus dire lequel.
Ça peut être Vagabonde, 2001.
Et puis, il y a eu aussi le festival de Dinan, là, Mirzine, qui est harpiste lui-même, donc à ce festival qui m'a invité une fois aussi. Bon, je suis allé aussi à Parthenay, un autre. J'étais invité l'été dernier à Bourges. J'ai fait un concert à Bourges, dans les marécages.
Dans les marais,
oui. Et marais, sur. Oui, c'était. J'ai joué mes compositions. Bon, ça va. C'est vrai que c'était fascinant.
Bien. On va bientôt s'arrêter. Il faut savoir pour les auditeurs qu'il y a des partitions de Pascal Coulon qui sont à vendre sur Internet.
C'est la Maison de l'Arbre qui vend certaines partitions. Il faudrait que je en reporte des nouvelles. Enfin voilà, non, je peux dire sinon, c'est vrai que moi, dans les CD que je vends un par un, donc à des gens qui passent, ce qui des fois me fait plaisir, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont le nouveau, celui d'avant, enfin qui suivent mon parcours créatif, on pourrait dire.
Alors, au niveau de trouver ces albums, je sais que pour les trois premiers, logiquement, il y en a au moins deux qu'on retrouve encore dans les FNAC ou ailleurs.
Il y a un moment où ces trois premiers, oui, étaient systématiquement dans les FNAC. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas seulement le mien. Quand je vais au rayon Venezuela, je vois des musiciens vénézuéliens ou des musiciens que je connais. Leur dit, je les vois plus non plus. Il y a eu, ils ont retiré les choses qui considèrent peut-être un peu comme vente marginale ou pas assez importante.
C'est-à-dire que ces dernières années, ils ont réduit la vente des disques.
Voilà.
Et le nombre de titres exposition.
Moi, disons, ce qui m'importe le plus, c'est les derniers CD que j'ai faits, parce qu'il y a surtout toutes mes compositions. Évidemment, ça a plus d'importance pour moi.
Alors, où peut-on les trouver à part le métro d'Enfer Rochereau?
Non, je les vends... C'est-à-dire, c'est assez intéressant de les vendre un par un. Bon, évidemment, ils s'en vendent pas beaucoup. Mais c'est-à-dire que, surtout... La manière dont ça se passe, c'est-à-dire je joue et quelqu'un donc passe et a envie d'acheter le CD parce qu'il a aimé, ce qu'il a entendu. Par contre, une maison de disques, combien il en a vendu, est-ce qu'il en a vendu, des fois on n'arrive pas forcément à le savoir.
Ouais.
Hein, donc je cite pas, mais par exemple, je peux dire il y a un des disques où jamais je n'ai eu un compte rendu de vente.
Oui, c'est vrai, on en discutera une autre fois, mais il est vrai
donc,
aussi.
Donc bon, il faut accepter ça comme ça.
La SACEM n'accepte pas de
voilà,
donner les comptes.
Quand j'ai voulu me tourner vers la SACEM pour dire écoutez, quand même, il y a des choses. Par exemple, combien cette maison de disques a fabriqué de disques? Ah, mais on peut pas vous le dire. Et pourtant, c'est mon disque. Là, j'ai pas compris. Donc ces disques-là, je veux dire, j'ai tourné la page là-dessus. Ouais. Ils ont été faits. C'est pas la peine. J'ai bien vu que c'est pas la peine d'aller. Je me concentre plutôt sur les nouveaux. Si un jour une maison de disques s'intéresse, veut s'en occuper, oui, pourquoi pas. Mais j'espère que ce sera dans des conditions où je sais pas, où il y a un suivi, où on sait quoi, on sait ce qui se passe. Mais bien. Pour le présent, le fait du contact, de les vendre quand je joue, c'est vrai que c'est passionnant.
Où peut-on les trouver alors?
Quand je joue dans le métro, je vends mes disques. Et puis, de temps en temps, j'ai un gala, j'emmène mes disques, voilà.
À la Maison de la Harpe aussi, je crois, hein, il y en a.
Oui, j'en ai laissé quelques-uns à la Maison de la Harpe.
Alors, pour acheter les disques de Pascal Coulon, nous allons mettre l'adresse e-mail sur laquelle vous pourrez écrire et donc faire les commandes. Bien, Pascal, merci beaucoup d'être venu. Nous avons été très contents de te recevoir. Et au prochain disque, de toute façon.
Ben, merci de m'avoir reçu, c'était avec plaisir.
Alors donc, le dernier disque de Pascal Coulon s'appelle Danza Harp, ce sont des compositions originales, et nous vous mettrons donc sur internet les contacts pour pouvoir acheter ce disque. Voilà, je vous remercie beaucoup, ici Autre Radio, Autre Culture, et je vous dis à bientôt. Autre radio, autre culture.